ça veut dire rythme et poésie.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix. C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la mort! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
1, 2, 3.
Et re-bienvenue à votre émission d'actualité internationale chez le voisin à Chiz 94.3. Seb, j'espère que ça va bien. Merci pour ce bobli qui, ma foi, est adapté au climat en ce moment. Il fait toujours chaud. Il y a des alertes de fumée tellement les feux sont intenses en Ontario. Et comme de fait, le bobli est presque bouillant, mais il est déjà bouillant, bobli, ça a des bulles.
Le mien est déjà entamé. Ah, voilà. Il est relativement chaud parce que je les avais oubliés dans mon char. Oubliés. Volontairement laissés dans mon char par paresse.
Ce qu'on voulait dire à bobli, c'est que c'est quand même bon chaud. Fait que n'hésitez pas à nous écrire vous aussi parce qu'on aime votre breuvage puis que il y en a qui l'essayent froid, il y en a qui l'essayent glacial, mais nous on l'essaye non conventionnel, chaud.
J'aurais une préférence pour froid, mais je t'avoue que ma relation avec Bobli est un peu spéciale. C'est-à-dire que j'aime pas particulièrement ça, mais j'en bois.
Tu dis ça, j'essaie de me pogner un sponsor, puis toi tu viens de bâcher.
J'en bois. J'achète des grosses caisses au Costco, là, tu sais, c'est genre des caisses de, je sais pas, là, 36. Là. Puis c'est juste que j'aime ça boire quelque chose d'un peu pétillant. Je favorise évidemment boire quelque chose qui est genre pas du 7-Up Diet ou whatever. Mais ça reste que, tu sais, c'est bon, mais c'est comme ça à la limite d'être bon pour en boire.
Ouais, c'est plus, moi, à chaque fois que j'ouvre un bubbly, je veux dire, j'adore bubbly, mais je l'ouvre, puis je le sniffe, puis j'ai le goût de le jeter après, parce que c'est plus l'odeur qui est bonne. Mais je veux dire, bubbly, c'est très bon.
C'est comme correct.
Sponsorisez-moi. Ouais, ben, à la limite, bubbly, se recycler en Febreze, genre, peut-être, quelque chose de même, parce qu'ils font des très bons parfums. Est-ce qu'ils font des bonnes saveurs? C'est autre chose. Mais bubbly, contactez-nous. À la limite, si on vient de perdre notre sponsor, on pourrait s'arranger niveau marketing pour
ou si un nouveau sponsor qui veut embarquer par-dessus puis offrir une prime pharaonique en argent aussi.
Chiz, on est toujours ouvert à ça. Radio étudiante, on va chercher
les
l'argent.
C'est phénoménal.
Voilà. Écoute, parlant d'argent, je trouve qu'on est vraiment gratin ce matin. Puis quoi de mieux pour les gratins qu'une loterie offerte par le gouvernement du Québec? Puis là, je dis gouvernement du Québec, mais c'est pas révolutionnaire. Là. Ça s'est déjà fait ailleurs. Même aux États-Unis, on en parlait déjà avant ça. Plein de petits concours, etc. Moi, évidemment, vous l'avez compris, en essayant d'aller chercher autant de sponsors, je pouvais pas passer à côté d'une occasion de gagner 150 000 $ par semaine et un gros lot de 1 million en septembre de dollars. Ça, c'est offert par le gouvernement du Québec. à ceux qui sont vaccinés une fois pour les 150 000 $ puis deux fois pour le 1 million de $. Fait qu'une genre de... C'est drôle, là. J'écoutais les nouvelles, puis toi qui as le dossier puis qui voulais en parler, je te laisserai le micro après, mais j'ai ouvert les nouvelles, ou plutôt, je veux dire, j'étais chez mes parents, fait que genre, bonne vieille famille québécoise typique des années 2000, on écoutait les nouvelles ensemble, puis on tombe dessus, puis il y a une petite madame qui dit « Ah, c'est une bonne raison pour aller se faire vacciner. » Puis là, j'ai presque le goût de me taper dans la face puis de dire « Mais non, ça, les bonnes raisons, ils sont passés depuis un bout. L'argent, c'est pas censé être la raison. » Mais en même temps, j'écoutais, puis un peu naïf, je me suis dit « Ben oui, écoute, il y en a que leur seule motivation dans la vie, c'est l'argent. Genre moi, tantôt. Fait que peut-être que ça va accrocher du monde. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que toi, t'es inscrit? Je suis curieux. Toi qui, genre, gros investisseur Bitcoin et tout, est-ce que tu vois cette loterie vaccinale là, comme une aubaine du siècle?
Probablement, ma question, c'était, là, c'est tout le monde qui est admissible. C'est-à-dire que, disons, moi qui s'est fait vacciner avant qu'il sorte la loterie vaccinale, je peux m'inscrire.
Voilà, c'est ça. C'est
pas juste pour les nouveaux qui arrivent comme, non. Hey, on veut vous inciter à vous faire vacciner. Regardez, on vous offre la carotte. Allez vous faire vacciner, puis après ça, vous pouvez vous inscrire. C'est tout le monde.
Ouais, fait que, imagine comment ça serait pas. Je pense que là, je sortirais manifester, mais pas contre le port du masque, contre le fait que je peux pas m'inscrire à la loterie, puis avoir une chance de gagner.
Je ne me suis pas inscrit, non. J'achète déjà avec mon père et mon frère de façon hebdomadaire des billets de loterie, c'est-à-dire qu'on est trois, puis il y a une semaine que c'est moi qui achète de l'automax, l'autre semaine c'est mon frère, l'autre semaine c'est mon père. Fait que c'est déjà assez comme ça.
Ah ouais, puis, même si c'est gratuit, là, c'est offert à toi. Tu t'es fait vacciner en bon citoyen avant même qu'il y ait la carotte.
En bon citoyen.
Fait que tu sais, tu serais la personne idéale pour gagner un
billet. On a pas eu besoin.
Non, fait que, ben écoute,
je te relance la question, t'es inscrit, toi?
Oui, évidemment, c'était un peu sous-entendu dans ce que j'ai dit avant, mais effectivement, en tant que gratienne, puis c'est tellement, moi, c'est plus que ça, je veux dire, dans la famille, on a une genre de grande tradition dans la famille. Je vais pas pointer mon père, mais je vais pointer mon père, qui a comme établi cette tradition-là dans la famille. Puis disons que mon père est un grand sucker of loterie québécoise, puis comme de fait, ça a été le premier inscrit. Je me suis inscrit après, mais je suis en train de me dire, peut-être que tu es en train de jouer le rôle du héros dans cette société. Toi, tu t'es fait vacciner avant même que cette loterie-là. La loterie, elle sort, puis le gars, il est genre, moi, c'est assez, j'ai ma propre loterie. Je vais laisser la chance aux autres.
Les héros portent pas toutes des cartes.
Ce que tu es en train de dire, c'est que tu offres plus de chance aux autres de gagner.
J'offre plus de chance aux autres.
Tout à ton honneur.
Regarde, je vais le dire au micro ici. Ce que je pourrais faire, je pourrais m'inscrire. Puis je pourrais, puis là, évidemment, c'est dit en ondes, fait que je peux pas backer. Puis je pourrais, si je gagne, parce que je vais sûrement gagner si je m'inscris, je vais tout donner l'argent. Je vais tout donner l'argent à une œuvre de bienfaisance qu'on fera un vote sur la page Facebook de Chez le voisin, d'ailleurs, que je vous invite à aller liker, Chez le voisin. Ouais, je vais tout donner à une œuvre de bienfaisance.
Ben ça, c'est très, très beau. Surtout que tu es impliqué dans plein d'affaires. Toi, je sais que tu fais du bénévolat un peu partout à Québec. Fait que ça tombe sous le sens. Écoute, je t'invite à faire ça.
Mais je vais m'acheter un lingot d'or aussi.
OK, ouais, ça, c'est correct. Effectivement, toi...
C'est un lingot d'or moins... Bon, le reste, la différence.
Je pense qu'on peut te pardonner ça, non, si tu donnes tout le reste.
Je dis ça parce qu'en fait, c'est là que je m'en vais. C'est-à-dire que, comme tu l'as mentionné, effectivement, au Québec, ici, c'est un incitatif pécunier qui est intéressant. Honnêtement, c'est une bonne idée. Puis, on regarde un peu à travers le monde. Puis, à l'instar du Québec, il y a un partenariat avec l'Auto-Québec. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait de quoi de super classique. Je veux dire par là qu'ils ont fait loterie vaccinale. On fait un partenariat avec la loterie. Mais si on regarde à des places différentes dans le monde, puis on s'en va à Hong Kong, eux autres, ils font tirer des lingots d'or.
Ben voyons donc, direct. Ça, je suis sûr que tu serais
Rolex,
déjà inscrit,
une Rolex en diamant.
Ça, c'est à Hong Kong? Ça, moi, j'aurais cru que c'était en Suisse. C'est capoté. Ils donneraient un peu de leur or qu'ils ont en réserve. Là, mais
en Russie, il y a un skidoo. Puis si tu vas encore plus cheap, en tout cas dans mon opinion, si tu vas en Alabama, il offre l'opportunité de conduire sur une piste de course.
C'est bien poche. J'ai l'impression qu'en Alabama, ils font déjà tout ça anyway.
Ben, ils sont déjà pas vaccinés en Alabama. Fait qu'ils se sont dit, bon, tu sais, regarde, on s'en fout, on donne n'importe quoi.
On veut pas vraiment qu'ils se fassent vacciner anyway. Fait que genre, on va offrir le prix plus basic.
Ça, fait que là, c'est là que tu vois un petit peu la disparité entre les pays. Fait que, au pire, allez vous faire vacciner à Hong Kong, inscrivez-vous. Faut sûrement être un résident, parce qu'il va falloir que vous restiez là assez longtemps. Puis, ben, regarde, vous pourrez gagner une Rolex en diamant. Mais tu vois que la réponse au gouvernement partout dans le monde est vraiment différente. Parce que si je reste un petit peu en Russie, le ministre du Travail, en collaboration avec la santé publique, puis le ministre du Travail, il a tout un nom, je vais essayer de le dire assez rapidement, Rospotrebnadzor.
Ben, parfait.
Oui, ouais, c'était parfait. Lui a recommandé que les employeurs puissent suspendre sans paye les gens qui souhaitent ne pas se faire vacciner, sauf évidemment pour des raisons médicales. Bon, évidemment, les recommandations prennent en considération que les gens qui sont suspendus, ou plutôt avant de suspendre quelqu'un, faut donner l'alternative de pouvoir travailler à la maison. C'est dans un effort d'atteindre des immunités collectives de 80% des employés d'une entreprise qui sont fait vacciner. Mais tu sais, la Russie, on le sait que depuis le début, les chiffres qui en sortent sont un peu durs à interpréter ou très incertains dans les chiffres qui sortent. C'est probablement magnifié beaucoup par rapport à ce qui sort. Mais tu sais, un des cas récents, c'est pratiquement 25 000 cas par jour, puis 800 morts dans la même journée. Évidemment, c'est rien de très rassurant. On sait qu'on s'en... Je sais pas si t'en sais au début, on avait eu une nouvelle qu'il y avait eu un créateur d'alerte, là, qui avait un médecin qui avait parlé puis qui avait dit « Hey, tu sais, les chiffres qui sortent de la Russie ne sont pas vrais, c'est pas les vrais chiffres. Si on fait une comparaison avec les crématoriums, les gens qui meurent, c'est pas les vrais chiffres. » Puis mystérieusement, ce médecin-là, dans la semaine suivante, était, entre énormes guillemets, russe, tombé en bas d'une fenêtre.
Oui, ben ça fait partie de ces grands médecins russes qui malheureusement connaissent des fins tragiques, voire théâtrales, tel Shakespeare qui écrirait une pièce, ils font leur grande annonce au monde et disparaissent par la suite, tel leur devoir accompli. Mais effectivement, quand en Russie, c'est drôle parce qu'une fois leur devoir accompli de bons crieurs d'alerte, souvent, ça disparaît. Je présume que ils se sentaient plus obligés de garder leur rôle de crieur d'alerte après ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement, quand on voit des médecins comme ça disparaître, par exemple, à la suite de Navalny, hein, son fameux médecin qui l'a traité là-bas, puis qui a dit qu'il pourrait y avoir eu un empoisonnement, bien, ça donne qu'il pourrait aussi disparaître.
Ouais, c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui.
J'ai jamais eu de nouvelles.
Lui était parti en voyage de chasse, suivi, supposément. Puis, c'était quelqu'un contre qui la Russie pouvait possiblement avoir une dent parce qu'il était allé à contre-courant de ce que officiellement on disait en Russie. Puis par rapport à Navalny, puis ce gars-là, il était parti à la chasse, puis il était disparu, genre en skidoo. C'est probablement pas le skidoo qui avait fait tirer pour la loterie vaccinale.
Ouais, je suis en train de. Tous les points se connectent en ce moment. Est-ce que la Russie vient pas de faire une aubaine et de non seulement s'être débarrassée de son crieur d'alerte, mais aussi d'avoir acquis skidoo. Un prix pour sa loterie vaccinale? Donc, d'une pierre deux coups, comme on dit, on récupère, puis on ne laisse aucune miette dans l'assiette. Les Russes qui font bien leurs choses, c'est-à-dire. On récupère bien ce qu'on a sous la main. Je pense que ex-URSS oblige, on fait avec les moyens du bord. Je sais pas si t'avais fini de ce côté-là, mais c'est drôle parce que tu parles de carottes et de bâtons. En Russie, on comprend que le bâton est plus gros que la carotte avec cette nouvelle loi-là qui pourrait mettre à pied des gens non vaccinés à cause de raisons morales, pas médicales, effectivement. Mais au Québec, en plus, je vais faire un petit parallèle, mais ici, on a établi définitivement qu'on pouvait pas faire ça, si je me trompe pas, puis même que les médecins devaient, c'est dernièrement là, qu'on a appris la nouvelle, là, quand même quelques semaines, là, mais c'est relativement proche, cette annonce-là, que les médecins ne peuvent plus refuser des gens qui ont des symptômes de la COVID, par exemple, des choses comme ça. Ils sont pas vaccinés, etc., parce que, c'est leur devoir d'accueillir des patients, mais aussi que les employeurs ne pouvaient pas, donc, congédier ou refuser d'engager quelqu'un simplement parce qu'il n'a pas été vacciné ou qu'il ne veut pas se faire vacciner. Donc, cette nouvelle-là au Québec qui est apparue récemment, qui fait un gros contraste avec la manière russe de taper sur les doigts, alors que, tu sais, c'est très contradictoire. Ici, c'est presque la majorité de la population qui est maintenant vaccinée et... On dit que les gens qui se font pas vacciner peuvent quand même travailler, alors qu'en Russie, c'est la majorité de la population qui est pas vaccinée. Puis c'est là-bas qu'on dit que vous pourriez être mis à pied. Imagine s'ils mettent à pied tout le monde là-bas qui sont pas vaccinés. Je pense que la Russie aurait un autre problème sur les bras. Mais on va pas trop en parler. Ils ont leur méthode de faire. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. Ce qui est sûr, c'est que dans des plus petits pays dont on n'entend pas souvent parler. je vous présente le Bhoutan. Bhoutan que vous avez peut-être vu la dernière fois au défilé olympique, et c'est probablement tout. Je veux dire, les défilés olympiques, c'est ça qu'il y a de beau. Tu vois plein de pays que tu connaissais pas, des petits pays en plus qui présentent des athlètes, puis que tu te dis, ben voyons donc, il y a des gens là-bas, puis il y a des athlètes là-bas. Surprenant. Ben, Bhoutan
ou
qui était.
Ça existe, ce pays-là?
Ben, c'est ça. Souvent, c'est plus la première réaction. Mais après, quand tu vois des athlètes, tu te dis, ben, tabarouette, non seulement ça, mais ils ont un programme olympique, faut le faire, bravo. Puis le Bhoutan, je pense qu'il était là, un tout petit pays, là. Je veux dire, c'est 800 000 habitants, le Bhoutan. Puis, si je me trompe pas, ils ont quand même présenté une délégation à Tokyo. Faudrait que je revérifie. Mais le Népal, je pense qu'il était là. Le Bhoutan, il me semble que je l'ai vu aussi. Ouais, donc,
je serais comme curieux de savoir le Népal, c'est dans quel sport qu'ils pratiquent. Puis là, c'est pas parce que le Népal, je pense qu'ils sont bons, pas bons, mais on dirait que.
Tu veux-tu que je prenne un guess très, très, très stéréotypé et probablement outrancier, c'est un royaume, tu sais, situé en Himalaya. Donc, bon, Himalaya, ouais. Proche de l'Inde, de la Chine, etc. C'est d'ailleurs situé exactement entre l'Inde puis la Chine. Là. C'est, je veux dire, c'est une enclave, je pense qu'on dit enclave, quelque chose comme ça.
Puis, un pays enclavé.
Enclavé, voilà. Et ben qui dit montagne dit peut-être escalade, puis l'escalade qui est arrivée aux Jeux olympiques, l'escalade de vitesse, donc qui sait, peut-être qu'on les Himalayens sont de très grands grimpeurs et des grimpeurs de vitesse. Moi, c'est mon guess, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de me foirer puis d'être totalement stéréotypé.
T'sais, ils ont donc, probablement des athlètes dans quand même beaucoup de sports. Je présume qu'ils ont des athlètes en haltérophilie, ils en ont sûrement en lutte.
En course peut-être en, aussi,
ouais,
des
en
choses
course,
comme ça.
Ouais. D'ailleurs, on a une athlète canadienne ce matin qui a gagné une médaille d'or en haltérophilie, Maud Charron, on la félicite cette année. Écoute, on collectionne quand même pas tant que ça les médailles d'or, puis c'est une Québécoise. D'autant plus que c'est une Canadienne, mais c'est une Québécoise. C'est une jeune femme qui vient de Rimouski, et si je ne m'abuse, elle a 28 ans. Une médaille d'or en haltérophilie, félicitations.
Puis, ben, tant qu'à faire un petit crochet là-dessus avant de finir la nouvelle sur le Bhoutan, là, on y revient tout de suite, mais t'as-tu vu sa performance? Puis si oui, ben, en général, c'est-tu dur ce qu'elle fait? C'est toi qui en fais
des levées de poids? De l'haltérophilie aux Olympiques, il y a deux levées. Deux levées, ça veut dire que ça commence par du snatch, puis après ça, c'est du clean and jerk. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est que le gagnant, donc la médaillée d'or, gagne avec un total. Ça veut dire que c'est le total de ces deux lifts. Conséquemment, je veux dire, si elle fait, disons, 100 kilos en snatch puis 200 kilos en clean and jerk, ben 300 kilos te met dans un classement avec les autres pays. Ça marche évidemment par catégorie de poids. C'est-à-dire qu'elle, je pense qu'elle est dans les 64 kilos. Puis après, ben, t'as trois tentatives pour chacun des levées. C'est-à-dire qu'évidemment, bon, là, tu vas marquer sur une feuille où ton coach va indiquer tu commences à quel poids. Ça veut dire que, disons, tu commences, je sais pas, ton premier livre, souvent, j'imagine que tu essaies de t'assurer un livre qui est modérément lourd, mais que tu as des bonnes chances de réussir. Parce que dans la capacité que tu rates tes trois livres, t'as zéro pour un des livres. Conséquemment, c'est sûr que tu gagnes pas. C'est considéré que c'est ton total, le résultat. Fait qu'ils ont trois tentatives. C'est un sport que toute l'action se passe, là, du moins pour l'arracher, donc le snatch en français. Là, ça se passe en littéralement une seconde. Là, le lift se fait, c'est super explosif. C'est super intéressant à regarder. Il y a des affaires qui ont aucun bon sens, des fois les ratios de ce que les gens sont capables de lever. Là. C'est autant impressionnant là, chez les femmes de 49 kilos que chez les super heavyweights, chez les hommes. Souvent, les ratios sont capotés de ce que les gens lèvent. Puis tu vois des affaires super impressionnantes. Là, on parle des hommes qui font de l'épaule jetée, donc du clean and jerk, dans 500 quelques livres. Là. Ça veut dire qu'ils tirent, ils passent en dessous, ils montent et ils montent en haut de leur tête après. Là. C'est pas un petit deadlift de 500 livres, entre guillemets. Là. C'est de l'épaule jetée, ils sortent par terre, ça finit dans leur tête. Là. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
Ça fait que, ben, j'avais pas vraiment besoin de la confirmation, mais tu sais, je veux dire, je voulais juste voir toi qui en fait puis qui connais les termes puis les technicalités. C'est encore plus impressionnant quand c'est expliqué, puis je veux dire, je t'ai vu puis tu soulèves quand même pas pire.
Tu sais, je suis quand même pas pire, mais ça se compare en absolument rien avec les lifts olympiques. Tu sais, moi, je serais dans une catégorie de. Je sais pas, j'imagine. 80 quelques kilos, là. Puis, tu sais, les gars, ça n'a aucun sens qu'est-ce qu'il lève. Là. Ça n'a vraiment aucun sens.
Ça fait que encore plus grand chapeau levé à Maud Charron qui a fait tout un exploit. Puis déjà, tu l'as dit, le Canada qui n'est pas non plus une puissance en termes de médailles d'or. Là. Évidemment, c'est les classiques Chine, États-Unis, le Japon qui n'est pas si pire non plus, l'Allemagne, la Russie, qui n'est pas la Russie cette année, hein, qui est le comité olympique russe, donc le ROC en anglais, Russian Olympic Committee, puis qui est très, très drôle parce que, bon, vous l'avez sûrement vu passer, mais qui joue joue du Tchaïkovski lorsqu'il gagne une médaille d'or. Donc, très, très drôle de ce côté-là. Moi, je capote, mais en même temps, je veux dire, c'est drôle, sauf que l'hymne national quasi-soviétique me manque presque un peu. C'est toujours drôle de l'entendre. Je trouve que c'est très staliniste à la limite. Là.
Puis d'ailleurs, ceux qui se le demandent, pourquoi la Russie est représentée pas sous leur drapeau, c'est parce que, voilà, quelques années, là, ils se sont fait prendre dans un système endémique de dopage. Là. C'est-à-dire que c'était vraiment... C'était pas un cas isolé d'un athlète russe qui prenait des stéroïdes. C'était vraiment un programme national de stéroïdes que les athlètes passaient au travers. Puis conséquemment, mais c'est tout un programme aussi de comment cacher ça. Parce que c'est bien beau prendre des stéroïdes, mais c'est-à-dire que si moi je consomme des quantités de stéroïdes qui vont augmenter mes capacités, non seulement à récupérer, mais à performer, évidemment, mais ça reste qu'il faut que je passe aux Olympiques, puis il faut qu'on me teste négatif. Là, fait que c'est ça le problème, me tester négatif aux stéroïdes. Fait que la Russie qui sont comme suspendus-ish, on va dire, ils sont quand même là. Parce que s'ils gagnent une médaille, mais c'est pas forcément attribué à la Russie. Puis tous les pays que tu as mentionnés tantôt, les pays qui gagnent beaucoup de médailles, mais c'est des pays qui ont des gros bassins de population. C'est juste ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie qui est une question de logique et de statistique. C'est-à-dire que tu as plus de chances de créer des champions du monde si tu pars d'une population de 300 quelques millions de personnes versus une population de 30 quelques millions de personnes. C'est sûr que ça dépend de la culture et tout. Là. Mais j'ai l'impression que c'est juste logique que c'est ta première explication un peu à ça. Puis ça enlève vraiment rien à ces pays-là. Là. Ça reste que ça enlève rien à cette tête-là. Cette tête-là gagne effectivement la médaille et se montre meilleur que les autres, mais j'ai l'impression qu'une partie de la réponse de pourquoi c'est genre la Chine, États-Unis, Allemagne.
C'est sûr. Puis en plus, c'est des puissances économiques, donc ils ont de l'argent à mettre dans leur, programme sportif. Fait que 2 plus 2 égale 4, là, c'est presque logique de les voir au sommet à chaque fois. Grand bassin de population. Puis en plus, bien de l'argent à mettre là-dedans. Je veux dire, les États-Unis et la Chine qui sont très, très fiers de se représenter à l'international. Puis c'est un peu de bomber le chest. Fait que ça m'étonne qu'à moitié de les voir à chaque fois au sommet du classement, mais effectivement, ça enlève rien à ces athlètes-là qui passent leur vie à s'entraîner. Puis eux, la médaille qu'ils la gagnent pour tel ou tel pays, je pense qu'ils sont contents, peu importe. Là, c'est une médaille pour eux, olympique, qui plus est. Donc, chapeau quand même. Là. On leur enlève rien. Juste que ça fait très guerre froide de voir les États-Unis et la Chine ou la Russie, des fois, gagner toutes ces médailles-là. Je vais revenir au Bhoutan que j'ai laissé, encore une fois, dans l'ombre de ces géants-là. Puis c'est toujours comme ça, hein, quand je vous disais qu'on les voit passer que très rapidement au défilé olympique. C'est la même chose. Je veux dire, ils ont une petite délégation, petite population, etc. Mais le Bhoutan, qui, malgré leur petite taille et leur petite population, a réussi un grand exploit. C'est-à-dire que, bon, je vous parlais de la population, 800 000 personnes, c'est pas beaucoup, sauf que, étonnamment, si on a parlé souvent du COVAX, mais on l'a jamais vu en action, Seb. Puis je me suis dit, quoi de mieux pour parler du COVAX que le Bhoutan, qui est justement un pays dont on n'entend pas beaucoup parler, pas une force économique et qui, donc, non seulement pas force économique, mais souvent, ce que ça implique, c'est qu'ils n'ont pas les moyens non plus de produire les vaccins sur place. Je veux dire, 800 000 habitants essaient de trouver la spécialisation, l'emplacement, la place, la population pour tout installer ça. Fait qu'ils doivent, ils sont surtout dépendants des grandes puissances qui peuvent leur fournir des vaccins et donc ils ont fait affaire avec l'initiative COVAX des Nations Unies. Et eux, ils ont subi deux vagues, en fait, de vaccination. C'est-à-dire, la première, ils ont eu des vaccins AstraZeneca, qui ont été fournis par l'Inde, donc leur très grand voisin. Ça a été plus de 500 000 doses, donc plus de la moitié de la population d'un coup arrivée de l'Inde. Il y avait quelques doses après qui sont venues par la suite. Ça a été super rapide. En deux semaines, on avait plus de la moitié de la population qui était vaccinée, ou je pense plus de 500 000 personnes, donc c'est beaucoup plus que la moitié de la population. Et malheureusement, qui dit première dose puis qui dit initiative COVAX dit que t'es très dépendant, comme j'ai dit, à ce qui arrive. Puis pendant un long bout, vous le savez, l'Inde puis même l'Europe qui gardaient leurs vaccins pour eux pendant un long bout, qui était comme on n'en fait pas assez, donc nous on va les garder pour nous. Ça a affecté directement le Bhoutan, qui pourtant, je veux dire, est le voisin de l'Inde, donc il pourrait avoir facilement accès à ça. Ils ont dû attendre une livraison de vaccins des États-Unis, donc eux qui sont arrivés avec plusieurs centaines de milliers de doses, encore une fois. Cette fois, Moderna, si je ne me trompe pas. Les États-Unis, je pense qu'ils vont faire du AstraZeneca et du Moderna. Pour l'instant, le Pfizer, qui l'ont gardé pour eux, le plus efficace, comme de fait. Mais bon, c'est arrivé au pays, ils ont pu vacciner donner leur deuxième dose, et maintenant, c'est 90% de la population qui est vaccinée au complet, pas une première dose, au complet, et ça en une semaine au Bhoutan. Donc, comme quoi, c'est, tu sais, des fois, c'est pas la volonté qui manque, des fois, c'est pas l'infrastructure médicale, c'est vraiment juste les vaccins, ces médicaments-là. Puis quand on dit que plusieurs pays en sont dépendants, bien, c'est intéressant de voir que, tu sais, c'est pas par mauvaise volonté qu'ils vaccinaient pas, c'est vraiment parce qu'ils pouvaient pas avoir accès aux vaccins. Donc, tant qu'on leur donne pas les vaccins, ils peuvent absolument rien faire, mais quand les vaccins arrivent, claque, une semaine, ta population est vaccinée.
C'est quand même surprenant que 90 % une semaine. Puis, tu sais, je sais pas si le fait que psychologiquement, tu sais, quand on te prive de quelque chose, puis finalement, tu l'offres, genre, tu es là, yes, yes, j'en veux.
Tu sais,
je sais pas
si ça arrive, comme un impact là-dessus. Est-ce que ça va arriver encore? Est-ce que c'est notre dernière chance? Il faut pas les laisser. Oubliez pas que les vaccins ont aussi une date de péremption. Donc, tu sais, c'est important d'être efficace sur la logistique, puis de se dire si on vaccine, c'est là. C'est tout de suite, on a une dose limitée, on sait pas quand est-ce que la prochaine livraison arrive. Puis pour eux, ben peut-être qu'ils auront même pas besoin de prochaine livraison. T'sais, si le 10% de la population veut pas ou peut pas se faire vacciner, peut-être que pour eux, je veux dire 90% de la population toute vaccinée, c'est déjà énorme. C'est ce qu'on appelle une immunité collective quasi totale. Donc pour eux, je veux dire, la campagne de vaccination, gros succès.
T'ouvres les bars puis en way.
Ouais, voilà, ben je sais pas si au Bhoutan, il y a une grosse nightlife là-bas, puis il faudrait checker peut-être.
800 000... Tu sais, ça doit ressembler à genre la ville de Québec.
Ben, c'est ça, la ville de Québec, c'est 500 000. Fait qu'ils ont peut-être genre une ville de Québec puis une région autour de. Je veux dire, ça se pourrait. Puis ils ont peut-être un Dagobert là-bas, quelque chose comme ça.
Sûrement une barmaid quelque part, là.
Voilà, qui attire un peu plus de pourboire que les autres. Écoute, qui sait, là-bas, ils ont peut-être un 281. Peut-être que le 281 a déménagé aussi là-bas. Qui sait, toute la nightlife de Montréal.
Je sais pas si j'allais danser là-bas. Pour les hommes.
Ça veut-tu dire que t'as déjà dansé au 281, Seb?
Ça me dérangerait pas. Là. Je pourrais danser autant pour les hommes que pour les femmes. Là. Je veux dire, c'est pas une question de garde.
Un 20$, c'est un 20$.
20$, c'est 20$. Ouais. 20$, puis 7$, c'est 7$. Je sais pas si on a des préférences, mais là-bas, nous, on est très exotiques là-bas. Là.
Voilà. En tout cas, on leur souhaite que leur nightlife réouvre bientôt, 281 Dagobert ou pas. Bravo à eux qui ont été salués par les Nations Unies, effectivement. Tu sais, je veux dire, Nations Unies qui ouvrent leur programme COVAX. Puis de voir que ça fonctionne comme ça, c'est encourageant pour les autres pays de montrer, tu sais, soyez prêts, ayez l'infrastructure prête. Puis dès qu'on vous en donne, ça peut aller aussi vite que ça, c'est-à-dire une, deux semaines dans le cas de la première dose. Donc, bravo au Bhoutan qui... Bien, on risque d'en reparler dans deux ans.
On les salue, si nous écoute. Je pense qu'on est diffusé au Bhoutan. Fait qu'on dit bonjour à tous les habitants.
Je veux dire, on est diffusé partout grâce à notre site web.
En fait, on dit bonjour aux 90% qui sont vaccinés. Puis on dit pas salut aux autres.
Ben, qui sait, c'est, je veux dire, je veux pas faire de jugement. Tu sais, 10%, c'est pas beaucoup. Fait que c'est quoi, c'est 80 000? Est-ce que c'est 80, ben, c'est 800 000, fait que c'est 80 000, effectivement.
Non, alors, on dit ça à tout le monde, sans discrimination, sauf ceux qui sont pas vaccinés pour des raisons autres que médicales.
Voilà. Ça, c'était plutôt clair. Écoute, je te laisse le micro pour un petit flash info.
Regarde, j'en ai plusieurs. Je vais aller au Brésil. On a parlé quand même relativement souvent du Brésil. Évidemment, c'est un gros pays. Il y a des dizaines de milliers de Brésiliens qui sont encore descendus dans les rues samedi en fin de semaine, puis ils réclamaient encore la destitution de Jair Bolsonaro pour sa gestion exécrable de la crise sanitaire puis le bilan de l'épidémie, de la pandémie, qui dépasse le demi-million de morts. Puis à Rio, comme dans les 400 villes où se tenaient des manifestations, les protestataires ont dénoncé évidemment le démarrage tardif de la vaccination, la campagne de vaccination qui était absolument dégueulasse, le chômage massif, puis ils ont réclamé plus d'aide pour les populations pauvres qui ont été confrontées et exacerbées par la pandémie. Puis la presse brésilienne faisait même état qu'il y avait 20 des 26 États brésiliens qui avaient des manifestations dedans. Puis Jair Bolsonaro, bien, en ce moment, malgré lui, il est confronté au pire moment de sa présidence entamée en 2019. Son taux de popularité, c'est de 24 % Les sondages suggèrent même qu'il perdrait les élections s'il y avait lieu tout de suite, mais sont quand même en octobre, face à son prédécesseur qui est assez récemment sorti de prison, Luiz Lula da Silva. Puis d'ailleurs, le parti de da Silva était parmi les manifestants. Le Brésil, comme j'ai mentionné tantôt, ils ont enregistré 550 000 morts de la COVID. Un bilan qui est uniquement dépassé par les États-Unis, mais qui ont une population supérieure d'à peu près 120 millions. C'est-à-dire qu'au Brésil, ils sont more or less 200-ish millions. Là. Au Tunis, ils sont genre 330 millions. Mais tu sais, évidemment, ça vient. Ça, c'est une causalité. La causalité, c'est action-réaction. C'est-à-dire que Jair Bolsonaro, pendant tout son mandat, il a été sceptique par rapport à la crise sanitaire, par rapport au port du masque. On se souvient, il faisait des gros rallyes où est-ce qu'il serrait la main des gens. Par rapport à la vaccination, il a dit que lui-même ne se ferait pas vacciner. Il a refusé des vaccins Pfizer. Il a d'ailleurs lui-même eu la COVID. Il y a eu des prises de bec avec des gouverneurs d'État parce que les gouverneurs d'État, eux, voulaient confiner. Lui, voulait pas. Lui disait que l'économie était plus importante, disait que les désastres qui seraient causés par les pertes d'emplois ne seraient pas compensés par le confinement. Puis, juste pour vous donner un petit peu une idée de l'homme que c'est, puis là, je pense que le portrait à gros traits que je vais tracer est évidemment un peu incorrect parce que... Mais tu sais, je suis allé voir sur Internet hier, puis je savais que c'était un gars... parce qu'on l'appelle le Trump des tropiques. Et je savais que c'était un gars qui avait eu des déclarations... pour le moins, je veux dire, confrontante quand même dans le passé. Parce que je me suis dit, hey, je vais aller voir un petit peu c'est quoi les genres de déclarations. Fait qu'assurément qu'il en a fait des bonnes déclarations. Là. Mais je vais quand même vous montrer les turpitudes de cet homme. Il avait dit à une femme, une élue du Congrès qui s'appelle Maria do Rosario. Alors, je vais le dire en français, mais là, c'était traduit en anglais qui était en portugais. Là, que je ne te violerai pas parce que tu le mérites pas. Il avait dit ça en 2014 à une élue du Congrès, puis peu importe si c'est une élue du Congrès ou pas, là. Mais tu sais, what? Pardon? Pardon avec une infinité de petits points en arrière. Il avait dit à une femme, je te violerai pas parce que tu ne mérites pas.
Le malaise est palpable, je veux dire, c'est
capoté.
C'était quoi les réactions dans ce sens-là? Tu sais, des fois, dans le Parlement canadien, quand genre le chef de cabinet ou quelque chose dit une belle déclaration, t'entends le monde applaudir. Dis, ouais. Hey. Moi, je me demande si, en plus, c'est dégueulasse ce qu'il dit. Est-ce que son parti derrière, t'es comme, ouais, bien joué, ben, Jair, bonne répartie, tu l'as remis à sa place.
Ouais, genre, bien répliqué, Jair. Mais c'est ça, tu sais, je fait que là, ça ben, tu sais, je pense qu'on peut se positionner un peu de sa perception. Des femmes, puis à quel point que c'est un machiste, je veux dire, puis que là, si on s'en va un peu d'un autre bord, puis il y en avait d'autres, mais les autres déjà étaient quand même pas mal plus longues, on tentait pas de les expliquer plus longuement, mais si on s'en va vers l'orientation sexuelle, il a dit qu'il serait incapable d'aimer un fils homosexuel, puis il a aussi dit plus tard qu'il préférerait que son fils meure dans un accident versus qu'il se présente à la maison avec un bloc avec une moustache.
Voilà, ben oui, ça prend tout son sens, hein, effectivement.
C'est... Fait qu'un gars qui dit à une femme, tu mérites pas que je te viole, puis un homme qui déclare, regarde, moi je suis tellement contre l'homosexualité que je préférais que mon fils meure, que ton fils meure, versus qu'il se présente à la maison avec un gars avec une moustache. Fait que tu sais, c'était juste pour... C'était juste pour vous faire un petit portrait.
Mais ça, c'est-tu, tu sais, admettons qu'il y a des problèmes avec le fisc puis avec les finances, tu sais, est-ce que s'il y a un gars qui se pointe avec des documents officiels, mais qui a une moustache, est-ce que son fils est condamné à mort, même si c'est juste des relations financières, tu sais? La question est à poser. Peut-être qu'il n'est pas... non seulement il n'est pas misogyne, mais il n'est pas homophobe. Peut-être qu'il n'aime juste pas les gens à moustache.
C'est peut-être
un gros malentendu, puis on ne le sait pas. Mais dans ce cas-là, on aimerait ça qu'il nous explique, tu sais, qu'il dise un statement officiel qui t'aime pas les gens en général puis la société ou juste les gens à moustache, ça serait expliqué Jair Bolsonaro qui vraiment
ben d'ailleurs garde l'invitation à l'anté Max si entend ça on garde une troisième place ici au micro s'il veut venir s'expliquer, ça va nous faire plaisir. Mais tu sais, on parle quand même d'un homme qui non seulement a fait des déclarations lapidaires et incendiaires comme il vient de faire là, mais on parle d'un homme qui a été qui passe en cours pour différents des accusations, qui veut se faire destituer, que plutôt la population veut destituer. Puis aussi, ses fils, évidemment, ses fils qu'il avait mentionné là, n'ont pas les mains très blanches. Ils sont souvent accusés. Il avait limogé le chef de police parce que le chef de police fait des investigations sur lui. Il y a eu beaucoup d'histoires sur sa présidence. Allez lire un petit peu son histoire si ça vous intéresse. C'est quand même dur à croire qu'un homme qui a dit des déclarations comme ça 2011-2014 a pu se faire élire en 2019. Mais gars, pas moi qui ai voté.
Les gens oublient rapidement lorsqu'on leur parle d'économie puis de gloire passée, de nationalisme. Donc, toujours faire la part des choses. Mais bon, écouté. Comme quoi, finalement, ben, t'as peut-être raison, hein, lui qui préfère peut-être les gens corrompus à des homosexuels. Faut croire que oui, parce que le fait que ses fils soient sous enquête et tout, ça, ça ne le dérange pas. Il préférerait qu'ils soient en vie plutôt que, bon. J'ai que ses priorités à la bonne place. Ceci était effectivement du sarcasme, si vous ne l'aviez pas compris encore. Même chose pour la moustache. J'ai comme des gros doutes que c'est contre les gens en moustache qu'il y a vraiment une dent. Mais bon, on lui laisse le bénéfice du doute. S'il se pointe un jour, je pense que je vais me raser à la barbe. Je vais juste me laisser une moustache pour le tester à fond, voir qu'est-ce qu'il déteste le plus.
S'il veut défendre les allégations, garde Jair.
Mais il n'y a pas de moustache, hein, ce gars-là.
Est-ce qu'il est imberbe?
Moi, je pense que c'est ça. Le gars, il est imberbe, puis il a vraiment, genre, il sent un manque de masculinité, donc il compense en bâchant des gens qui ne trouvent pas assez masculin, puis mâle alpha pour lui.
Ouais, puis ça fait du sens avec son autre déclaration par rapport aux femmes. Il essaie tellement de se remonter, puis de dire, hey, t'es pas digne de te faire violer par moi. Tu sais, il y a clairement le complexe du petit pénis, là.
Voilà, complexe de la petite moustache aussi. Ouais. Écoute, c'est notre défi. Jair, j'ai une plus belle moustache que toi. Si t'es capable d'en faire pousser une, fais-toi pousser une moustache, mon homme. Toi qui es un mâle alpha et le signe de la masculinité au Brésil. Sur cette grande nouvelle, on se laisse pour une courte pause sur le star, puis on va revenir tout de suite avec plus de flash info, puis plus de nouvelles ridicules de même, avec des pseudo-dictateurs, par exemple, en Ouganda. On va revenir tout de suite.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is a disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Et on est de retour après cette prise de bec avec le président brésilien. Ben, je dis prise de bec, il peut même pas répondre. Là. Puis je pense que de toute façon, il est habitué à des monologues, Jair Bolsonaro. Donc on joue dans la même cour que lui. Mais pour passer à autre chose d'un peu plus soft, avant de repasser à des genres de pseudo-dictateurs puis des mauvaises décisions présidentielles, je vous en avais parlé. Très hâte de vous parler de l'Ouganda qui fait très piètre figure de ce côté-là. Mais avant, j'ai une autre discussion assez intéressante. C'est peut-être on risque de rentrer dans l'opinion puis tout, mais c'est surtout dans le un peu what the fuck. Tu connais sûrement la grande barrière de corail.
C'est drôle parce que quand on a parlé à la pause, je me disais, il me semble que j'en ai. Depuis que je suis jeune, qu'on me parle de la. Mais qu'on m'en parle très à la surface, bien qu'elle soit en dessous de l'eau. Je la connais, évidemment, puis je sais que l'oxydation, puis que le blanchissement de la. Mais ça faisait un petit peu que je n'avais pas entendu parler.
Ben oui, c'est ça. Puis je veux dire, quand tu dis que c'est vieux, c'est quand même depuis 1981 qu'il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial des Nations Unies. Donc, tu sais, ça fait maintenant 40 ans. C'est le 40e anniversaire de cette inscription-là. Mais tu l'as dit, tu as parlé de détérioration, du blanchissement des coraux. Donc, je veux dire, la beauté des coraux, c'est le fait qu'ils soient fournis déjà, qu'ils soient colorés, qu'ils attirent une vie, une faune marine assez importante. Puis là, ben, ce qui se passe, ben, c'est que ça devient des genres de vieux murs de J-Proc plates à regarder, puis pas de vie. Ça fait que c'est, je veux dire, évidemment que tu le vois directement, les conséquences. C'est pas juste. On n'est pas en train d'émettre des hypothèses. Ça se voit à l'œil nu que la détérioration est importante au point où il y a carrément plus de vie, puis plus de couleur là-dedans. Et bon, ça fait un petit moment qu'on essaie de se dire, ben, qu'est-ce qu'on devrait faire de tout ça? Est-ce qu'on le met en danger? Est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'on a la situation sous contrôle? Est-ce qu'on peut sauver cette barrière de corail-là? Puis il y avait une grande décision qui a été portée vendredi. C'est l'UNESCO encore, donc, qui avait la décision à prendre. C'est est-ce qu'on la met, cette barrière de corail-là, sur la liste du patrimoine mondial en péril? La communauté scientifique est presque d'accord à l'unanimité. Puis je dirais, elle est d'accord à l'unanimité pour dire qu'il y a un problème là-dessus. Sauf que J'hésite à dire que les scientifiques d'Australie pensent le contraire. C'est plus des gens en Australie pensent le contraire. Puis je pense aussi qu'il y a une question de publicité à l'international qui fait paraître l'Australie comme un mauvais élève en termes de lutte contre les changements climatiques puis de protection de la faune et de la flore. Donc l'Australie qui a été... puis d'habitude, quand on parle de lobbying, Seb, tu dois entendre genre la fameuse affaire Bayer puis Monsanto au Québec avec le glyphosate qui dit « Ah, oh, vous pouvez adoucir les règlements puis les lois là-dessus, on peut mettre un peu plus de pesticides, des compagnies qui veulent, par exemple, GNL Québec, des affaires comme ça, tu sais, les grandes compagnies qui veulent faire du profit là-dessus. » Sauf que les pays aussi font du lobbying et c'est ce qui est arrivé à l'UNESCO, c'est-à-dire l'Australie est allée défendre sa cause pour dire « Non, non, mettez-la pas sur la liste des patrimoines en péril, on a la situation sous contrôle, faites-nous pas ça, on gère la situation, on remet ça à plus tard. » Donc, la décision vendredi qui a été faite que non, la barrière de corail n'est pas encore un patrimoine en péril. Et ça l'a fait froncer les sourcils de plusieurs parce qu'on se dit, ben voyons, c'est...
Ben regarde, je les fronce à l'instant.
Je confirme que Sébastien a eu la même réaction que beaucoup de gens. Il fronce les sourcils même encore, il est un peu sous le choc. Puis je comprends, même moi quand j'ai lu ça, je suis genre... Ben, c'est quoi la raison? Pourquoi l'Australie fait ça? Puis il y a une grosse question derrière, c'est est-ce que ce serait pas plus, pas tant pour la protection de cette barrière de corail-là qu'on dit qu'elle est encore correcte, c'est plus pour une image de pays. C'est en tant que nation, tu parais mal si ton patrimoine, qui est un des plus grands patrimoines mondiaux, est sur la liste en péril. Et l'Australie qui est allée dire justement, ben non, on a la situation sous contrôle, alors que plusieurs personnes disent exactement le contraire. Donc, une décision qui était reportée à l'année prochaine, c'est souvent, bon, je pense que c'est annuel, cette chose-là.
Je serais vraiment curieux de voir c'est quoi les barèmes, si on veut. T'sais, qu'est-ce qui fait que quelque chose est considéré comme en péril? C'est quoi les outils qu'ils ont utilisés? C'est quoi les chiffres qu'ils ont utilisés? C'est quoi les comparatifs? Je serais vraiment... T'sais, parce que me semble que depuis que je suis jeune, là, t'sais, elle va pas bien, la barrière de corail, il faut la protéger. Puis à cause de son rôle dans l'écosystème, je pense que c'est pas juste une barrière de corail. Là, wow, c'est cool. L'Australie a ça, quelle merveille du monde. Là, je pense que ça fait vraiment partie de l'écosystème, je veux dire, des océans. D'ailleurs, il y a des beaux petits poissons plein de couleurs là-dedans.
Bien ça, puis c'est ça qu'on veut pas voir disparaître, en fait. Mais l'Australie aussi voit peut-être ça d'un autre œil. Toi qui dis, ben, c'est quoi les raisons derrière cette décision-là?
Expliquez-moi.
Derrière ce lobby-là, ben, je vais peut-être te donner des pistes de solutions. C'est quand même 2300 kilomètres. Hein, hey. Cette barrière de corail-là. Donc, ça fait bien des zones à découvrir.
C'est aussi gros qu'une frontière de pays, là, qu'une grosse frontière de
énorme.
Pays.
C'est énorme. Puis, bon, surtout, ben, c'est une grande attraction touristique hein, qui dit une aussi grande barrière de corail, qui dit patrimoine mondial de l'UNESCO, dit ben, des gens qui veulent voir ça. Puis, ce que ça ferait, la liste du patrimoine mondial en péril, ben, ça limiterait probablement ben, cette attraction touristique-là. On devrait mettre plus d'argent pour la réparer, plus d'argent pour la protéger. Ça limiterait donc le nombre de visiteurs, mais le nombre d'exploitations qu'on peut faire autour. Et ça, tu sais, non seulement c'est 2300 km, puis je te dis c'est du tourisme. Quand je te dis c'est du tourisme, on estime que ça génère 4,8 milliards de dollars de retombées touristiques à l'Australie. C'est énorme. Vous pouvez lire l'article sur Radio-Canada là-dessus, dans la section environnement, là, justement. C'est un article qui date du 23 juillet à la suite de cette décision-là. C'est pas nouveau, je pense que l'Australie le sait très bien que ça lui rapporte de l'argent. En 2015, il y avait une campagne similaire de lobbying qui avait déjà accordé un sursis. Puis l'Australie ben, avait dit ben, on promet de mettre quelques milliards de dollars là-dedans. Évidemment que ces quelques milliards-là, ils s'effondrent de toute façon en tourisme. Donc, est-ce qu'ils sont pas en train de s'auto-saboter en ayant cherché autant d'argent au niveau du tourisme? Ils doivent en passer des bateaux, ils doivent en passer des gens qui accrochent les coraux, ils doivent en passer des touristes qui, tu sais, on dit toujours de ne pas ramasser une roche ou de nourrir les animaux, puis il y a toujours deux, trois tatas qui le font. Puis ça, je suis sûr qu'il y en a deux, trois tatas qui vont chercher les coraux, qui vont les toucher, qui vont les déranger.
Je sais pas c'est quoi la profondeur. Hein? Je sais pas à quelle profondeur.
Très bonne question. C'est pas si profond que ça. En certaines parties, donc, ouais. Mais ben je suis pas un expert là-dessus.
Ouais, c'était vraiment une question pour si un auditeur le sait, écrivez-nous. Puis je serais vraiment curieux de voir le pourcentage que ça occupe dans les revenus touristiques du pays. Évidemment, j'ai aucune conception de c'est quoi les revenus touristiques de l'Australie en termes de milliards de dollars. Mais tu sais, des fois c'est des gros pourcentages. On avait vu comme quand il y avait eu la suspension du Hajj, qui est le pèlerinage à la Mecque. en Arabie Saoudite à cause de la COVID, c'était vraiment un gros pourcentage des revenus non pétroliers de l'Arabie Saoudite. Fait que je serais vraiment curieux parce qu'assurément, tu sais, comme moi, c'est sûr que si je vais en Australie, je sais pas, je vais y aller un jour, mais c'est sûr que c'est une des premières affaires. Moi, quand je dis Australie, là, je pense à kangourou puis je pense à corail. Tu sais, je veux dire, pas mal. Je vais voir le kangourou, je vais voir la grande barrière de corail.
Voilà, fait que ben peut-être que ben pour l'instant tu vas pouvoir y aller toujours, mais justement c'est un gros dilemme. Hein? Est-ce que c'est ça qui cause ce blanchiment-là? Pas exclusivement, évidemment, que c'est l'industrie puis tous les transports probablement autour. Il y a plein de raisons. Le tourisme n'est pas la seule cause de dégradation de cette zone-là de 2300 km, mais ça reste quand même dans la mire des scientifiques et etc. Donc c'est une décision qui est un peu douteuse, qui se dit effectivement, est-ce que tu sais, on encourage cette dégradation-là en ayant voir ça ou on, plutôt on encourage la protection de cette barrière de corail-là si on l'utilise pour du tourisme puis montrer, regarder comment c'est beau. Fait qu'un gros dilemme de ce côté-là, mais l'Australie qui a gagné son pari malgré le sourcillement puis le froncement de sourcils de plusieurs. Donc, est-ce que c'est une bonne décision? J'ai l'impression que c'est une décision qui allait être prise en 2015 déjà. Donc, là, 6 ans, on se disait peut-être qu'on devrait la mettre sur la liste en péril. On leur a donné un sourcil. Puis là, cette année, encore une fois, on repousse ça alors que l'Australie est un des pays qui ne s'est pas mis d'objectif. Tu sais, la fameuse réduction de gaz à effet de serre en 2050. L'Australie, avec son gouvernement conservateur en ce moment, est allée plutôt mollo de ce côté-là aussi. Donc, on voit que la protection de l'environnement n'est pas encore dans les priorités. Donc, est-ce que ça a affecté cette décision-là de repousser la mise en place d'un protocole de patrimoine en péril? Bonne question, mais bref.
Question pertinente.
Gros débat de société de ce côté-là, mais pour l'instant, l'Australie qui s'en tire à bon compte.
Je vais y aller avec un petit flash, moi, c'est-à-dire que je vais passer 3 nouvelles relativement rapidement, mais qui sont dans le moins pertinentes. Le décompte final, puis officiel, des morts dans l'effondrement de l'immeuble de Surfside qu'on avait couvert, qu'on avait parlé en juin, d'ailleurs qui était le 24 juin, c'est de 98 morts. Parce que le dernier corps aurait été sorti le 20 juillet, puis a été identifié, parce que vous comprenez bien que des fois, c'est compliqué d'identifier des cadavres, même si c'est bien morbide. Identifier des cadavres, mais tu sais, c'est des fois aussi, on parle d'un effondrement d'immeubles. Donc, on parle que souvent, les cadavres ne sont pas forcément intacts. Puis, je me souviens que pas longtemps après l'effondrement, ils prenaient des échantillons d'ADN des gens de la famille pour être capable d'identifier des gens à partir de des moins de morceaux que de cadavres. Mais bref, le bilan final serait de 98 morts. Si on s'en va au Costa Rica, il y a des pluies torrentielles qui ont fait 2 morts puis ont forcé le déplacement vers des refuges de plus de 3000 personnes selon la Croix-Rouge du Costa Rica. Puis des pluies de cette magnitude-là, ça serait pas arrivé depuis 1978. Il y a même certaines régions qui ont reçu en une journée ce qu'elles reçoivent normalement en 1 mois, capoté. Puis si on s'en va juste au sud, aux États-Unis, le président Joe Biden y a reçu le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, puis ont conclu une entente lundi hier pour mettre fin à la mission des troupes américaines en Irak, qui sont là depuis 18 ans. Puis si on, en combinaison avec le retrait des troupes d'Afghanistan qui se fait présentement puis qui est en fait pas mal fait, mais l'administration va mettre fin à 2 guerres qui avaient été commencées par le président Bush, George Bush fils. Puis présentement, il y a 2500 soldats américains qui sont aux États-Unis puis qui servent présentement essentiellement à coordonner les efforts contre l'État islamique. Puis moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite de ça. T'sais, parce que là, on parle que les États-Unis se retirent de 2 pays qui ont des milices ou des groupes hostiles aux États-Unis. Puis comment ils vont coordonner un peu pour qu'il n'y ait pas une résurgence de l'État islamique, de Al-Qaïda? Comment ils vont faire leur suivi? Parce que si on regarde présentement en Afghanistan, ça va vraiment pas très bien. Les talibans prennent de plus en plus de territoire. On sait évidemment que les talibans veulent gouverner le pays. Ils prennent tellement de territoire, ils sont tellement forts qu'il y a beaucoup de soldats qui fuient dans des pays limitrophes, qui fuient, exemple, au Pakistan. Fait que là, on peut se demander, bon, ça fait 20 ans qu'ils étaient là, 18 ans qu'ils étaient en Irak. Je pense que dans les 2 cas, ça a été relativement un échec. Mais là, ils s'en vont. Qu'est-ce que ça va faire? L'avenir nous le dira.
Voilà, puis je pense que cette situation-là va être comme en Afghanistan. Ça va attendre le moment où les troupes vont commencer à partir pour voir est-ce qu'il y a une escalade? Si on l'a vu en Afghanistan, les talibans qui ont profité de ce retrait-là pour tout de suite relancer leurs offensives, les États-Unis qui ont décidé de les avertir puis de dire qu'ils vont quand même continuer leur raid aérien, sachant que les États-Unis ont quand même des bases dans la région, des navires qui patrouillent, etc. Donc, tu sais, ça laisse une sorte de vide de pouvoir qui est assez important. Les États-Unis qui se sont posés comme police du Moyen-Orient, à la limite, là. Donc, très hâte de voir qu'est-ce que ça... Ben, très hâte. Plutôt de l'appréhension, plutôt. Curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que l'Irak va mieux gérer alors que, tu sais, il y a des problèmes au Khuzestan en ce moment. Je pense, tu sais, bon... c'est très... Ben, Khuzestan qui... Je pense en Iran, celui-là, ou en Irak.
Ouais, le Khuzestan, tu parles de la crise de l'eau. Si je me trompe pas, là, il y avait des droits, effectivement, au Khuzestan, le cadre qui est clairement un pays qui serait pointé, une délégation qui serait pointée aux Olympiques, j'aurais fait hein? OK. C'est un pays, mais je me demande quasiment si c'est pas une région, non, là, parce que c'est comme gouverné.
C'est une province en ce moment.
Ouais, c'est ça. C'est une province, peut-être, qui veulent. Ouais, il y avait eu
mais
des.
Mais c'est en Iran, c'est ça, je me suis un peu trompé.
C'est en Iran, puis il y avait eu, effectivement, des morts à cause des manifestations d'accès à l'eau, qui c'est pourtant une région qui est riche en eau, mais on parle d'une incurie du gouvernement qui a mal géré, très mal géré les ressources en eau, puis que maintenant, ben, les gens manquent d'eau. Puis c'est quand tu manques d'eau, ben, tu vas manifester. Ouais. Là, qu'est-ce que tu veux faire?
Je me suis trompé parce que c'est vraiment à la frontière, donc avec l'Irak, relativement proche de Bagdad. Donc, tu sais, je me suis emmêlé les pattes là-dessus. Mais bref, la région qui est instable, peu importe. Déjà avec ISIS, qui est très, très. L'État islamique, en fait, qui est très, très présent en Irak toujours. Donc, puis les forces qui ont de la misère à gérer ça. Imagine avec le retrait des Américains. C'est ça. C'est un peu d'appréhension, probablement. Tu sais, on serre la main des Américains, mais c'est probablement. À contre-cœur, parce que, tu sais, les Américains, s'ils décident quelque chose, si tu dis non, je pense qu'ils vont quand même partir, peu importe, là. Donc, il faut que tu partes sur de bons termes, de toute façon. Maintenant, à quel point ils vont être capables de gérer ça, c'est comme un gros mystère. Mais vu ce qu'on voit en Afghanistan en ce moment, j'ai comme mes réserves sur ce qui va se passer en Irak, malheureusement, surtout sachant que depuis l'invasion américaine, le pays s'est jamais vraiment rétabli à 100%. Il y a une grosse influence de l'Iran dans la région économique, surtout. Donc, c'est les régions qui sont plus affiliées à l'Iran, c'est celles qui font le mieux, mais être contrôlé par une puissance étrangère, c'est pas nécessairement mieux. C'est exactement comme si les Américains restaient là. Donc, c'est un genre de gros casse-tête qui va devoir être résolu.
C'est vraiment un gros casse-tête. Puis je vais faire un petit... je vais prendre un angle, je pense qu'on n'est pas vraiment habitué de penser à, mais... Dans les deux pays, je pense que ça s'applique. Tu sais, les Américains sont là depuis, disons, 18-20 ans. Puis, bien, évidemment, tu as un certain nombre d'Afghans et d'Irakiens qui étaient comme des sous-traitants, je veux dire, pour les Américains. C'est-à-dire qu'il y avait des interprètes, il y avait des chauffeurs, il y avait des gens qui travaillaient avec eux. Fait que là, imagine que toi, ça fait, je sais pas, disons que sur les 20 ans, ça fait 10 ans que tu es un interprète pour l'armée américaine. Puis là, l'armée américaine acquitte. Puis là, maintenant, ton problème, c'est que les talibans veulent te tuer. Parce qu'évidemment, ils te voient comme un traître. Ils te voient comme un Américain maintenant parce que tu aidais l'ennemi. Fait que là, est-ce qu'on offre des visas à ces gens-là? Est-ce qu'ils les laissent là? Est-ce que les pays avec qui travaillaient ces gens-là sont responsables? Parce que j'amène le sujet parce que je sais que présentement, il y a effectivement des pays qui offrent des visas à ces gens-là. Parce que tu peux pas t'en aller puis faire comme « Hey, c'est beau, regarde, on a
ben,
deux... »
Dont le Canada. Le Canada a décidé de faire la même chose, c'est-à-dire que les Afghans sur place qui ont aidé ou supporté l'armée canadienne directement vont pouvoir avoir non seulement des visas, mais la possibilité d'être considérés comme des réfugiés ou même d'immigrer carrément au Canada, de pouvoir résider ici. Donc, c'est un peu un genre de cadeau, un remerciement de leurs services là-bas qui ont été, ma foi, très utiles. C'était nécessaire.
Ouais.
Là.
Si je crois que le Canada n'est plus en Afghanistan depuis genre 2014. Je pense que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus. Puis je pense qu'au début, justement, c'était une question, le Canada. Je crois à la base que le Canada ne l'offrait pas. Puis là, devant le fait que plein d'autres pays l'offraient, ben là, ils ont dit, bon, OK, ben, on va l'offrir d'autres aussi.
Moi, ça fait un peu suiveux, là, malheureusement.
Ça fait un peu suiveux, mais t'sais, évidemment, leur rôle est vraiment plus une ombre que le rôle des États-Unis. Là, je veux dire. Fait que c'était des fois des angles qu'on passe pas. On pense, les soldats américains sont là, puis ils s'en vont, merci, bye. Mais il y a toute une infrastructure autour dans le pays qui travaillait évidemment avec eux. Puis des fois, ça aurait pu être des oubliés. Là. Puis ça n'a pas, je sais pas à quel point que c'est facilité le fait de leur sortie du pays, mais j'espère que ça l'est.
Voilà, on leur souhaite en tout cas, puis on va vous revenir là-dessus si ça se développe de ce côté-là, en bien ou en mal, en espérant en bien quand même. Je vous avais parlé de l'Ouganda, c'est pas un pays dont on parle souvent en Afrique, là, je veux dire Afrique centrale relativement, l'Ouganda, petit pays. Mais en ce moment, je veux dire, comme tous les pays ont été énormément frappés par la COVID-19, sauf qu'il y a une petite nouvelle qui m'a accroché l'œil le 24 juillet, c'est-à-dire que le gouvernement ougandais a décidé d'accorder à son propre gouvernement, donc à aux députés, aux membres du Parlement, un budget de 30 millions de dollars. Puis là, vous dites, ah, peut-être pour la reprise économique, je veux dire, il y a des écoles qui ont été fermées, il y a des commerces qui ont été fermés, il y a, je pense, même des églises parfois qui ont été fermées. Donc bref, le pays qui a dû faire affaire avec des confinements assez importants à certains moments de la pandémie, l'économie qui en a pris tout un coup, qui continue à en subir les conséquences. Et là, c'est 529 députés qui vont avoir droit à un petit budget de 56 500 $. Puis là, vous vous dites, bon, à la limite, 56 000, c'est un petit salaire ici, là, c'est annuel, c'est pas si pire. Là-bas, un professeur est payé 75 $ par mois. Fait qu'imagine ce que ça représente, 56 000 $ pour eux. Eh bien, c'est simplement pour acheter des voitures. Donc, on leur donne un budget pour s'acheter une voiture aux frais du gouvernement, aux mêmes membres du gouvernement. Donc, évidemment, l'opposition qui était genre, ben, ça n'a pas d'allure que c'est ça, qui en ont profité pour critiquer le gouvernement. Mais évidemment que c'est pas juste l'opposition qui critique le gouvernement, la population qui est, justement furieuse de ce côté-là. Les gens qui comprennent pas où est-ce qu'on peut aller chercher autant d'argent pour réoffrir cet argent-là aux gens qui sont censés profiter à la reprise économique, profiter à l'infrastructure du pays, profiter, je veux dire, au système d'éducation. Je veux dire, tu pourrais, imagine, 30 millions, tu peux sûrement offrir une petite hausse de 1-2 $ par mois à ces professeurs-là. Puis déjà, tu viens d'augmenter la force d'achat d'une grande partie de ta population, etc. Donc, il y a plein d'affaires que tu peux faire avec 30 millions, surtout dans un pays où 75 $ c'est un salaire mensuel. Et non, on décide d'accorder 56 000 $ comme ça aux membres du Parlement qui veulent s'acheter une voiture officielle, entre guillemets. Mais tu sais, évidemment que si tu t'achètes une voiture officielle, tu peux l'utiliser pour à peu près n'importe quoi. Puis ça, est-ce que ça veut dire que les dépenses qui vont être reliées à cette voiture-là, par exemple assurance, bris mécanique, essence, ça va être aussi payé par l'entretien, ça va être aussi payé par le gouvernement, possiblement. Donc, je veux dire, ça a créé tout un outrage au pays, une vague d'outrage. Puis très franchement, j'ai regardé ça, j'ai fait genre, ça a bien pas d'allure. Imagine, ta population est en train de subir les contre-coups d'une pandémie mondiale historique, puis toi, t'es genre, on va se permettre d'acheter des chars. Puis très franchement, 56 000, c'est-tu pas exagéré en plus? Ici, tu peux t'acheter un bon char à 25 000.
C'est quand même un bon char, là, 56 000. Je sais pas c'est quoi les voitures qui ont accès là-bas. Puis je serais vraiment curieux de voir c'est quoi le pourcentage de la population qui ont effectivement une voiture. Puis je serais encore, en entonnoir, je serais encore plus intéressé de voir le pourcentage de la population qui a une voiture qui date des 5 dernières années. Puis là, je veux dire, on dirait que j'ai de la misère à comprendre comment c'est justifié. Je me dis que c'est justifié en disant ah, oh, tu sais, les membres du Parlement doivent voyager d'une région à l'autre pour visiter les. Je sais pas trop quoi, là, tu sais.
Mais tu sais. J'ai même pas vu de raison.
Tu sais, donner leur don, genre. Tu sais, je sais pas, là, donner leur don, genre, au pire 18 000, tu sais. Tu es capable d'avoir un char qui a bien de l'allure avec 18 000 $ là. Tu sais, là, je veux dire, le fait que là, 56 000, tu peux pas loin de t'acheter une Tesla, là. Tu peux t'acheter une BMW, là, 56 000.
Non, je te confirme qu'à 56 000, dans plusieurs pays, la Tesla, elle est accessible. Tu peux t'acheter BMW, comme tu as dit, certaines Audi. Tu peux modifier ta Volkswagen comme tu veux.
Ça peut-être. Pas de bon sens.
Mais c'est ça qui est ridicule, dans le sens où avec 25 000, tu pourrais t'en sortir puis offrir déjà 15 millions à ta population de plus. Mais on va être franc, que ce soit 15 ou 30 millions de dollars, c'est à peu près ridicule que le gouvernement offre autant de bons pour s'acheter un char alors que ta population est en train de mourir de faim dans certaines parties.
C'est une grosse enveloppe. je serais comme curieux de... Bon, tu sais, on s'en fout un peu, mais j'aurais été comme curieux de savoir un peu les chiffres de l'Ouganda par rapport à la pandémie. Tu sais, j'aurais tendance à croire que, bon, effectivement, ils ont été frappés, mais tu sais, c'est quand même... on s'entend que c'était un virus tout de même lié beaucoup au tourisme. Tu sais, fait que j'aurais tendance à penser qu'ils ont été frappés, mais c'était souvent l'Afrique a été, toute proportion gardée, toute chose étant égale par ailleurs, un peu moins frappée au prorata. Évidemment, ça dépend des pays, mais...
Tu veux-tu rire une bonne statistique? J'ai regardé parce qu'il me disait une statistique sans me donner le portrait total. Mais l'Ouganda, c'est quand même 44 millions. Donc, c'est un petit pays de manière géographique, mais au niveau démographique, 44 millions en 2019. C'est probablement rendu 45, 46 peut-être.
Il y a des gros taux de naissance.
Il y a 1 million de personnes vaccinées. Donc, ça te montre à quel point ils pourraient investir. Hey, imagine, ils investiraient. Tu sais, on dit souvent, il n'y a pas d'argent, mais aussi, des fois, c'est la faute du gouvernement qui investit très, très mal leur argent. Tu prends ce 30 millions-là et t'achètes des doses. En plus de l'initiative COVAX, tu vas pouvoir vacciner des millions d'autres personnes. Mais malheureusement, ils décident, voilà, d'acheter la nouvelle Audi de l'année. Derrière, petite nouvelle, avant de vous quitter, j'ai une très mauvaise nouvelle pour Jeff Bezos. Il n'aura pas décroché un contrat avec la NASA. C'est son grand ennemi de toujours, Elon Musk, qui va profiter d'un contrat de 178 millions. Donc, 30 millions, c'est des peanuts là-bas pour Elon Musk, qui fait des transactions à coût de 178 millions, qui va participer à la prochaine mission sur Europa, donc la lune de Jupiter. Elle, qui est assez connue pour probablement contenir de l'eau, ou en tout cas des traces d'eau, si je ne me trompe pas, Europa, qui va transporter un engin qui coûte non pas 178 millions, mais la petite navette de 178 millions va contenir un engin qui lui coûte 4,25 milliards de dollars. Donc, pas un petit investissement là-dessus. Elon Musk a une autre grosse mission sur les bras et qui est, autant on peut en rire puis dire, bon, c'est encore un trip de milliardaire, qui veut se faire connaître puis montrer ses joujoux. Mais je trouve ça quand même un peu plus pertinent que Jeff Bezos qui s'en va faire un trip dans le ciel de 11 minutes pour dire à ses employés, fuck you, vous auriez pas d'augmentation ce mois-ci.
Ouais, donc, Jeff exagère. Puis regarde, moi, je vais finir avec une petite information fun que j'ai bien aimée. Puis ça n'a vraiment absolument aucun rapport. J'ai appris hier que le Parlement canadien a un poète officiel.
C'est-tu vrai?
Oui, c'était la sermentation hier de la nouvelle gouverneure générale, Mary Simmons. Puis, à un moment donné, dans la cérémonie que j'ai évidemment pas vraiment écoutée, mais parce qu'à Midi Info, il en parlait. Puis, à un moment donné, ben, il y a un gars qui prend la parole, puis il est présenté comme le poète officiel du Parlement canadien. Là, je suis allé voir, j'étais allé sur Wikipédia, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Puis, ils ont vraiment un poète officiel. Fac. J'aimerais soumettre ma candidature pour être le nouveau poète officiel du Parlement canadien. Fait que quand vous allez voir mon nom passer quelque part, j'ai aucune idée comment qu'on fait, ben vous voterez pour moi.
Déjà qu'on a une belle expérience ici, on a un gros CV qu'on s'est accumulé avec la première année de chez le voisin, puis même une partie de la deuxième année. Donc, je pense que t'as quelque chose pour te backer derrière.
Poète
puis
officiel.
Tous tes livres que t'as chez toi de poésie, ton tatou de poète. Je pense que Seb... Moi, je t'invite non seulement donc à participer à la loto vaccinale puis à donner ce lot-là à l'organisme de ton choix, mais aussi à porter ta candidature comme nouveau poète officiel du Canada.
Merci,
je pense que la semaine prochaine, juste pour un petit clin d'œil, on fera une lecture d'un des poèmes de ce poète officiel-là du Canada. Parce qu'en même temps, tu veux lui voler sa job, ce serait la moindre des choses de
mieux
lire.
Je vais mieux le lire que lui.
Voilà. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Chez le voisin avec plus d'infos internationales, puis surtout un peu plus de fun puis de nouvelles what the fuck en essayant de vous parler cette fois pas de Bezos mais d'autres choses la semaine prochaine. Ciao tout le monde.